Radio Capi, grand témoin.
Il s'appelle Sébastien Louzanga Chamandevo, ancien ministre pendant la Deuxième République, actuellement il est secrétaire national, porte-parole de la majorité présidentielle chargée de la mobilisation politique et la communication. Monsieur Sébastien Louzanga Chamandevo, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans Grand Témoin. Avec vous, dans cette émission, nous parlerons de votre personne. Nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs des radios Capi. On va permettre à tous les Congolais qui se trouvent partout à travers la République démocratique du Congo de découvrir Monsieur Sébastien Louzanga Chamandevo. Je l'ai dit, vous avez été ministre pendant la Deuxième République. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole chargé de la mobilisation, donc porte-parole de la majorité présidentielle et secrétaire national chargé de la mobilisation politique et de la communication. Avant de parler de votre parcours professionnel et politique, on va commencer par une petite biographie de vous. Donc, on parlera de votre enfance. Monsieur Sébastien Louzanga, vous êtes né où et quand?
Je suis né à Moulopo, dans le secteur Kanda, le territoire de Gungu, dans le district du Kwilu, province de Bandundu. C'est là où j'ai évolué, Kikwit, Kinzambi, école secondaire, école primaire.
Vous voilà. Êtes né un certain 24 juin 1949. Et c'est là où vous avez passé toute votre enfance dans la province du Bandundu?
L'enfance jusqu'au niveau des humanités, oui. Et après, tout de suite après les humanités, je suis allé en Europe pour l'école supérieure de journalisme. C'est là où j'ai fait une licence en journalisme, une maîtrise en sciences de l'information.
Parlons d'abord de votre enfance dans le Bandundu. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Oh, j'ai grandi dans de bonnes conditions. J'étais dans une famille, ce qu'on appelait à l'époque une famille des évolués. Mon père avait eu des fonctions administratives. J'ai grandi essentiellement dans les internats. Vous savez, à Bandundu, la grande chose de Bandundu, c'est des bonnes écoles.
Chez les prêtres, les écoles des prêtres.
Chez les prêtres. Je n'ai évolué que chez les prêtres. Tout mon temps, depuis l'école primaire jusqu'aux humanités, c'est chez les prêtres, à l'internat. Voilà. C'est, en fait, vraiment, mon enfance, c'est beaucoup plus l'internat, les vacances en famille. Voilà un peu ce qui est de mon enfance.
Alors, on dit que le Bandundu, la province du Bandundu, a sorti beaucoup d'intellectuels congolais, est-ce vrai?
Oui, je crois que c'est à cause des très très bonnes écoles, des écoles de qualité qui ont existé dans le Bandundu. Les gens disent, en fait, c'est la seule richesse, ce sont les seules industries qui existent au Bandundu, ce sont les bonnes écoles. Mais regardez, un collège comme Saint-Ignace et Kignati a sorti énormément d'intellectuels. C'est parmi le collège, il y en avait trois en République démocratique du Congo. Saint-Ignace de Kignati, Notre-Dame à Bukavu et le collège Albert Ier ici, c'était de grands collèges. Vous reprenez l'école primaire de Kinzambi et son secondaire, du Kwit Sacré-Cœur, avec l'Institut Saint-André où il y avait c'était l'Institut de filles, il y avait Saint-Jean Bosco, de Frère Joséphite, il y avait Saint-François-Xavier, de Père Jésuite. Non, il y avait l'Eptoc à la Cité, l'école technique. Non, le Bandundu, à cette époque, c'était vraiment, vraiment l'école, le lieu où même les parents de Kinshasa, de toute la République, où ils envoyaient leurs enfants dans les internats de Bandundu.
L'Église a beaucoup investi dans la province de Bandundu pour la formation des futurs cadres du Congo.
Ah oui, l'Église a énormément investi. Je vous dirais, madame, qu'aujourd'hui, les hôpitaux que nous avons dans le Bandundu, pour la plupart, sont des hôpitaux, des centres médicaux de confession religieuse. L'élevage qu'on a dans certains coins de la République, ce sont les missionnaires. Et encore, que je voulais dire que le Bandundu, la rébellion est venue nous mettre 100 ans en arrière, parce qu'à ce moment-là, les religieuses comme les religieux commençaient à développer des grands centres pastoraux, des grands centres de développement. Voilà, je crois que le Bandundu, c'est toute une région, d'abord exclusivement agricole, et les prêtres y ont développé une politique vraiment de développement. Mais malheureusement, cet élan a été brisé et m'a donné par la rébellion, mais les choses ont commencé à reprendre. Je crois avec le concours de tout le monde, je crois que les Bandundu dormaient contre parmi les provinces le plus riche.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre enfance, monsieur Lozanga?
Ma vie à l'internat Kikuyu Sacré-Cœur.
Elle était comment? Racontez-nous un peu comment ça se passe la vie à l'internat.
Bon, ce qui m'a marqué le plus, c'est que d'abord, à l'internat Kikuyu Sacré-Cœur, j'étais déjà responsable à très haut niveau de sport. C'est ce que les amis m'appelaient le ministre de la Jeunesse et des Sports à cette époque. Et j'avais des grands, grands joueurs, de très, très bons joueurs, qui déjà rivalisaient avec les équipes de la cité à Kikuyu. Ça a été pour moi vraiment un souvenir. Ça m'a beaucoup marqué, cette vie-là. Ça nous a donné la formation d'être un homme, de chercher des solutions, de dire il faut que je parvienne à quelque chose malgré les conditions. C'est vraiment d'aller de l'avant malgré les conditions qui n'étaient pas forcément les meilleures. Ça nous a forgé un caractère. C'est vraiment d'arriver un jour à quelque chose. Et la preuve est que cet internat a pu fournir déjà, je crois, 4-5 ministres. Je vais les citer. Il y a Gifuza qui était ministre de PTT. Il y a Tantoumei qui était ministre Transport, il y a moi-même, peut-être j'en oublie d'autres. Vous voyez que c'était
un très bon souvenir que vous gardez de votre passage à l'internat.
À l'internat, un très bon souvenir.
Alors vous dites qu'on vous appelait déjà ministre de la Jeunesse et Sport à l'internat, vous aimez beaucoup le sport?
J'aime beaucoup le sport, surtout le football.
Vous jouez aussi au foot?
À l'internat, non, j'étais un joueur médiocre. Je n'excellais pas, mais c'est la connaissance, c'est ma connaissance dans le règlement de football. C'était pour moi une passion. Même aujourd'hui, je suis encore dans le foot. Je rate pas un match. Quand le Real joue, par exemple, je suis là. Je peux pas manquer un match. Et ici, dans mon pays, en tant que journaliste, comme vous, j'étais journaliste sportif. J'ai accompagné l'équipe nationale des Léopards d'abord à la Coupe du Monde en 1974. À Gelsenkirchen, en Allemagne. J'étais en Égypte quand nous avons remporté la Coupe africaine des nations au Caire. J'étais parmi les reporters sportifs. J'ai beaucoup voyagé dans le monde avec cette équipe, l'équipe nationale. Je me rappelle l'accueil dont nous avons été l'objet quand, le jour où nous sommes arrivés au mois de février, venant du Caire, avec la coupe qu'on a baptisée Moseka. C'est de grands souvenirs sur le plan sportif.
Sébastien Lozanga, Chamandez-vous, vous avez un diplôme d'études secondaires des humanités littéraires. Pourquoi avoir choisi la section littéraire? Parce que c'était la seule section qu'on retrouvait dans les écoles des prêtres.
Ah non, madame, dans le Bandundu, principalement à Kikuyu, il y avait toutes les sélections. Je vous ai parlé de l'EPTOC, qui était l'école technique, l'école professionnelle technique. Il y avait la section pédagogique, la section littéraire chez les filles. Il y avait la section scientifique, maths, physique, biochimie. Il y avait toutes les sections. Mais je vais vous dire.
Pourquoi avoir choisi la section littéraire?
Je vais vous dire, je n'avais pas beaucoup d'attitude dans les autres sections. Je suis vraiment médiocre. Médiocre en maths, en physique. Tout ce qui était science, ce n'était pas mon affaire. Je vais vous raconter l'anecdote. Chaque fois, j'ai passé des classes avec un examen de repêchage. Toujours en maths. Mais le passage de 5e en 6e, j'avais un examen. De maths, et je savais que je serais récalé. Mais avec la complicité d'un professeur qui a pu me donner le questionnaire d'examen de maths, je suis allé voir les plus calés en mathématiques, sans leur dire que c'était le questionnaire de l'examen. Eh ben, ils ont résolu les trois équations, les trois questions. J'ai presque mémorisé, rappelez-vous les mathématiques, j'ai pu mémoriser
les chiffres,
tout, mais il me restait peut-être à savoir si réellement c'était les questionnaires. Et quand nous sommes arrivés en classe, j'ai vu d'abord la première question, j'ai dit ça y est, c'est ça. Deuxième question, j'ai dit c'est ça. Troisième question, j'ai dit c'est bon. Alors je me dis, aujourd'hui je vais étonner le professeur, c'était M. Stoya. qui était un professeur de maths très très calé, tout. J'ai commencé à faire. Et comme c'était dans ma tête, j'ai dit, aujourd'hui, je vais déposer
le premier examen parmi les premières.
Mais ce professeur-là, comme il savait que j'étais complètement idiot en mathématiques.
Nul en maths.
Nul. Et il était derrière moi. Il était derrière moi en train de regarder toujours si je ne suis pas en train de tricher, et ainsi de suite. Madame, eh ben, j'ai résolu cette fois. Et puis, je suis allé remettre parmi les 5 premiers, j'ai remis ma copie. Et quand il a regardé, il n'en revenait pas.
Il s'est dit, non, c'est pas lui,
Il m'a appelé. Il me dit, je suis convaincu que tu as triché. Mais je lui dis, mais monsieur Stoya, vous étiez derrière moi. Est-ce que je ne peux pas m'améliorer? Eh bien, j'ai fait des efforts, je me suis amélioré. J'ai eu, pour cet examen-là, j'ai eu 100%. Ça a étonné jusqu'à aujourd'hui, parce que je le rencontre, il est à Kinshasa. Il n'est toujours pas convaincu que...
Mais est-ce que vous-même, vous étiez fier de vos 100%, sachant que vous avez triché quand même?
Non, mais je voulais quand même lui démontrer qu'on peut faire des fautes, mais j'avais triché.
En trichant?
J'avais triché. Ouais. Ça, c'est parmi les anecdotes, c'est pour dire que, pour répondre à votre question, pourquoi j'ai choisi la section littéraire, j'avais des aptitudes pour le latin, pour le français, pour l'histoire, en fait, tout ce qu'il y avait de branches littéraires, mais par contre, j'étais vraiment médiocre, sur des branches qui ne pouvaient pas m'amener vers la section scientifique. Ou maths physique, biologie, ou... et voilà.
Vous êtes marié?
Je suis marié, madame.
Père de combien d'enfants?
Je ne vous donnerai pas le nombre de mes enfants, je suis père de plusieurs enfants.
Après les études secondaires, vous êtes allé en France pour des études de journalisme?
Absolument. Et assez... je vais vous étonner, qui m'a envoyé à cette formation, c'était l'épiscopat à l'époque. Et qui était secrétaire général à cette époque, c'était le cardinal Mosengo à cette époque. C'était l'année 70. Je travaillais déjà.
J'avais des bourses.
J'ai travaillé déjà comme journaliste à l'hebdomadaire Afrique chrétienne, qui était un grand journal qui, à cette époque, tirait déjà 100 000 exemplaires.
Qui paraissait à Kikwitz?
Non, qui paraissait dans tout le Congo. Mais c'était ici. C'était ici, à la 10e rue, avec l'imprimerie Saint-Paul.
Ok.
Et là, ils ont remarqué, le père qui était l'éditeur du journal, le père Pierre Lefebvre, avait remarqué que j'avais certainement de qualité et qu'il fallait absolument que j'aille en formation. Et l'épiscopat a trouvé une bourse pour moi. Heureusement pour moi, à cette époque, arrivé à un concours du gouvernement français, j'ai participé à ce concours-là à la RTNC, j'étais retenu parmi les meilleurs et l'épiscopat a retiré sa bourse, et je suis allé en France comme boursier du gouvernement français à l'école supérieure de journalisme de Lille, qui jusque-là, mais même jusqu'à aujourd'hui, je crois
continue,
que c'est la meilleure
école de
journalisme. La preuve qu'on était plusieurs nationalités. Il y avait des Canadiennes, il y avait des Belges, il y avait des Syriens. Les gens venaient de partout, bien sûr, avec prédominance de Français. Et pour l'anecdote, à Lille en question, Jean-Pierre Pernaut, qui est la star de TF1, il est de ma promotion. Nous avons commencé le même jour, on a terminé le même jour. François Soudan, qui est le directeur de rédaction de Jeune Afrique, c'était la même promotion. Nous avons commencé la même année, mais lui, il a dû reprendre une année. Eh bien, ce que j'ai terminé une année avant François Soudan, mais la même année avec Jean-Pierre Pernaut, avec d'autres collègues français qui sont dans plusieurs médias.
Et après les 3 ans à Lille, vous avez fait une maîtrise à l'Université de Paris 2.
À l'Université de Paris 2. Ça s'appelle, c'est l'université de fils à papa. C'est une université très très sérieuse qui est liée au Panthéon également. C'est l'université où on ne fait pas de grève. C'est très sérieux le cours. Vous ne trouvez pas des graffitis dans les murs. C'est vraiment l'université très 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 très, très appliquée. Voilà.
Vous avez en plus de votre maîtrise en sciences de l'information, vous avez un doctorat de 3e cycle en idéologie et mass média aux États-Unis.
Oui, je veux dire que je suis doctorant. Après mon 2A, bon, j'ai commencé les recherches, j'ai commencé à rédiger. Bon, finalement, j'ai pas eu le temps. Je compte le terminer. Je ne sais pas quel jour, peut-être à la fin de mes jours, mais. Je n'ai pas encore le doctorat. Je dis, je suis un doctorant, parce que après le 2A, j'ai commencé à faire des recherches. J'étais en première année de doctorat à Nanterre, Paris 10. Et là, je suis revenu dans mon pays, accaparé par d'autres fonctions, des fonctions politiques. Bon, je n'y pense même plus. Et même quand je suis revenu pour reprendre des enseignements à l'ESTI, parce que je suis parmi les tout premiers formateurs à l'ESTI. Ouais. L'ESTI qui est devenu le FACIC. Quand je suis revenu, je n'ai pas l'âme à l'apostolat. C'est quand on voit l'enseignement, les professeurs qui enseignent, mais heureusement qu'on est en train d'améliorer de plus en plus leurs conditions. Mais à cette époque, tu t'es dit, bon, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller enseigner, d'être professeur à l'université, dans les conditions d'antan? Bon, écoutez, je me suis orienté carrément vers la politique. Et peut-être un jour, j'ai pris que Dieu me donne la force de finir cette thèse et la présenter et devenir docteur.
À l'époque, les professeurs vivaient quand même dans de bonnes conditions. Ils avaient des bons salaires.
Non, je parle de mon époque. Hein. Je ne parle pas de l'époque avant moi. Moi, je parle de mon époque. Non, je crois que c'est en train
la
de
s'améliorer. La situation était mieux.
C'est en train de s'améliorer maintenant. Ça fait partie des raisons qui ne m'ont pas vraiment incité à terminer cette thèse et le faire.
Vous vous situez par rapport à votre époque, c'était en quelle année?
J'étais nommé assistant à l'ISTI, donc à l'UNASA à l'époque, en 1974. J'ai enseigné une année à l'ISTI et je suis rentré pour cette formation de troisième cycle, justement, pour avoir le doctorat. Et de là où je n'ai pas terminé, je suis revenu dans mon pays.
Radio Capi, grand témoin.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Sébastien Louzanga Chamandevou, ancien ministre pendant la Deuxième République. Actuellement, il est porte-parole de la majorité présidentielle et secrétaire national chargé de la mobilisation politique et de la communication. Monsieur Louzanga, parlons de vos fonctions politiques. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique?
D'abord, je vais commencer par être conseiller dans plusieurs ministères, directeur de cabinet, je crois au total à 8 reprises directeur de cabinet. J'ai pris goût et de là, bon, je crois que les autorités de mon pays m'ont remarqué. Bon, ils m'ont confié le charge d'État dont on venait de parler. D'abord, j'ai commencé par être vice-ministre de l'agriculture et du développement rural avec le premier ministre Kengo Dondo, l'actuel président du Sénat. Je suis devenu vice-ministre à l'information et presse à cette époque, toujours dans le gouvernement Kengo. Et puis, je suis devenu titulaire, ministre du Commerce extérieur.
Jusqu'en 1997, avant l'arrivée de l'AFDEL.
Absolument. J'étais témoin de l'arrivée de l'AFDEL.
Et quand l'AFDEL est arrivée, vous avez fui, vous avez quitté le pays, vous êtes allé en exil?
Non, madame, ça peut vous étonner. Contrairement à mes collègues, plusieurs collègues qui avaient fui, je suis resté ici.
Et vous n'aviez pas peur d'être menacé, dérangé
Je n'avais absolument rien à me reprocher. Mais la peur était que, vous savez, dans le quartier ou parmi les collaborateurs, que quelqu'un vous dénonce calomnieusement, que quelqu'un vous dit, voilà, il était ministre. Et à ce moment-là, bon, c'est vrai, c'était un danger, c'était un risque que j'avais pris. J'avais pris des risques de rester ici. Et je vais vous dire, non seulement je suis resté ici, le ministre qui a pris le commerce extérieur, l'économie, il avait un gros ministère. Il m'a gardé au cabinet pendant 3 mois pour l'aider dans le domaine du commerce extérieur. Donc, j'avais un principe, c'est de servir le pays. De servir le pays, là où on a besoin de moi, ben, c'est d'être toujours prêt pour servir le pays.
C'est vous qui êtes allé vers les nouvelles autorités qui sont arrivées ou c'est elles qui sont venues vers vous?
Non, madame, d'abord j'étais parmi les rares ministres de cette époque à avoir fait la remise et reprise en bonne et due forme. C'est à ce moment-là qu'il m'a remarqué et il m'avait demandé si je ne pouvais pas rester avec lui pendant au moins 3 mois jusqu'au moment où s'il ne trouvait pas la nécessité de me garder. Et c'est ça qui s'est passé.
Vous avez accepté?
J'ai accepté.
Pour ne pas être sur la liste de ceux qui étaient poursuivis pour avoir travaillé avec le maréchal Mobutu?
Non. Mais est-ce qu'on devait poursuivre tous ceux qui ont travaillé avec le maréchal Mobutu? À ce moment-là, on exterminait alors tout le Congo. Et je vous dis que dans le gouvernement actuel, dans les institutions actuelles, Mais il y a des gens qui ont travaillé avec le maréchal Mobutu. Le problème, ce n'était pas de travailler avec le maréchal Mobutu. Les gens qui ont travaillé à cette époque, mais ils servaient la République.
Mais comment vous avez vécu les derniers moments de la Deuxième République?
Mais vous savez, ça me rappelle ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ça me rappelle ce que nous sommes en train de vivre maintenant. J'étais au gouvernement quand la rébellion a commencé. J'étais membre du gouvernement quand la rébellion a commencé. D'abord avec Kengo et puis avec Likulia. Comment la rébellion a avancé jusqu'à venir à Kinshasa. Mais c'est différent d'aujourd'hui. Parce que l'objectif étant tout à fait différent. Je crois que Laurent Désiré Kabila, enfin le président Laurent Désiré Kabila, venait ici pour changer de régime à la demande de tous les Congolais. Et à ce moment-là, tout le monde voulait absolument que le régime change. Et c'est ainsi que la rébellion est venue allègrement du nord jusqu'à Kinshasa, accueillie par la population, voire même aidée par la population. Partout où l'Afdel arrivait à cette époque, enfin l'Afdel de triste mémoire, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est son géniteur qui l'avait dit, l'Afdel de cette époque, partout où il arrivait dans le village, mais c'était l'accueil, c'était la fête, on les accompagnait. La population a accompagné l'Afdel jusqu'à Kinshasa.
Est-ce que vous qui étiez dans le gouvernement, vous avez senti quand même que la population a été fatiguée du régime de Mobutu?
Mais absolument, absolument madame. D'abord, avant même que j'arrive au gouvernement, je crois que le président Mobutu lui-même avait dépêché l'actuel premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo, pour aller entendre.
Pour les consultations populaires.
Voilà, les consultations populaires. Et quand il est venu de ces consultations populaires, il n'a pas flatté le maréchal Mobutu, il lui a dit la vérité, voici ce que le peuple veut. Je crois qu'il faut vraiment un changement.
Monsieur Sébastien Louzanga, comment vous passez vos moments de détente?
Voilà, le mois de détente, d'abord, j'ai du travail pendant la semaine, mais moi détente, le soir, généralement, je retrouve ma communauté pour boire un verre de bière ensemble le soir, où nous nous échangeons des informations, on commente toute l'actualité.
La communauté, c'est-à-dire?
La communauté, ma communauté d'origine, généralement les enfants de Kikwit, autour de, dans notre équipe des loisirs, Côte Fourdoum.
Pourquoi seulement les enfants de Kikwit?
Non, moi personnellement dans mon chaînement j'ai deux communautés. Ma communauté d'origine d'où je suis ici, et puis j'ai une communauté ici de Kinshasa, mes amis de Kinshasa. J'essaie de partager mon loisir avec ces deux communautés-là. Vous me trouvez de temps en temps le soir chez moi, Nakin, en train de discuter, en train de parler sport, en train de parler politique, comme également à Lemba avec les originaires, les ressortissants de Kikwit, parce que nous sommes unis dans une équipe de football, une sorte de mutuelle je suis avec eux. Et je vais vous dire, madame, je ne suis pas le genre à chercher à sacraliser les fonctions. Même quand j'étais ministre, je buvais dans la rue avec mes amis, justement. Après le football, nous nous trouvions sous les arbres pour boire un verre de bière.
Et vous habitez des quartiers populaires.
Mais absolument. Je vous dis que j'habite Massina. Même quand j'ai eu mes fonctions.
Pourquoi vous avez préféré rester dans un quartier populaire alors que vous étiez ministre? Quand même une grande unité du pays.
Mais je crois que mon cas sera vraiment l'exemple. Mais parce que j'ai ma maison c'est à Massina. Pourquoi fallait-il que j'aille? Et cette affaire-là...
Il y avait des résidences officielles quand même pour les ministres.
Ah, je ne sais pas s'il y a des résidences officielles. À ma connaissance, personne ne m'avait proposé. Et même si on m'avait proposé, cette fois, je ne serais pas parti. Mais je me dis, j'étais habitué à vivre avec cette communauté-là de Massina. Je n'y trouve aucun inconvénient. J'ai toujours habité là-bas. Ce cas-là a été parfois une fois... Je crois que c'était le gouvernement, mon deuxième gouvernement avec Kengo. Ça a été évoqué pour question de sécurité. J'ai dit, bon, sont en insécurité ceux qui ne sont pas avec le peuple. Moi, je me sentais en sécurité. Je me sens en sécurité avec le peuple. Et je me dis que si jamais il arrivait quelque chose, les premières personnes qui sauteraient pour me protéger, ça serait mes voisins, ça serait les enfants de Massina, de Njili.
Tout comme ça serait les premières personnes à vous sacrifier.
On sacrifie les gens qui sont méchants, qui sont mauvais, qui n'ont pas de contact avec la population, je ne crois pas.
Mauvais,
tous les événements, madame, m'ont trouvé à Massina. Et même quand les Rwandais sont arrivés, mais j'ai vu des événements, je les ai vécus à Massina. Je les ai vécus à Massina. Comme également, après la chute de Maréchal, je suis resté à Massina. Je n'ai pas changé de domicile. Parce que je me sens sécurisé par la population. Mais voilà.
Et vous arrivez d'écouter de la musique, monsieur Louzanga?
Écouter la musique?
Oui.
Beaucoup.
Quel genre de musique vous écoutez souvent?
J'écoute souvent Rochereau, Taboulay. J'écoute Franco, qui, soit dit en passant, c'était quelqu'un que j'ai fréquenté. C'était vraiment, j'étais très très proche de Lwambo Makiadi. Dans d'autres générations, j'aime bien Kofi, il a de bonne musique. Mais je dis, dans la nouvelle génération, mais certainement peut-être mon artiste préféré, c'est Papa Wemba. Parce qu'il sort un peu de l'original, c'est une star, Papa Wemba. Voilà.
Une chanson que vous aimeriez bien écouter sur Radio Kapi,
qui
vous ferait plaisir?
De quel orchestre, par exemple?
Ben, c'est à vous de nous dire. Rochereau, Franco, Papa Wemba, ça dépend de vous.
Oh là, je sais pas. Mais pourtant, je fredonne bien beaucoup de chansons. Écoutez, Papa Wemba, c'est l'hymne. C'est l'hymne à vous, les mamans.
La chanson Maman?
La chanson Maman, ça c'est l'hymne. Je crois qu'il concerne tout le monde.
La première chanson qui vous vient à l'esprit, c'est Maman.
Oui.
Donc, pour votre plaisir et pour vous souhaiter un bon dimanche, on va vous proposer cette chanson de Papa Wemba, Maman. Et pour le plaisir de toutes les mamans.
Et de ma maman qui a déjà un certain âge, mais qui est encore forte, voilà. Je la dédie à ma mère, Hélène Zumba.
Paul Badianyama va nous proposer cette chanson, Maman de Papa Wemba.
Sala na versaya mama ele kele ni pole kaba petanyo songa na lala mama sokyo zala kita kana bomoi ele na sengyo zake sanga susuana jamolinga kinga na lila yo saka jamolinga tiyo lala na lala muka jamolinga tiya tangu ya tungi sanga soki na belio zala kipota na songosa Bandayo que nana kuma abandoné. Récompense na yon a popé sa nanyango. Atana leli nanyako jor lotema. Yangwana yebeli aonde boyo mama yondo. Libele a mama botamai Ele ki barese Tenyo so la ba Fongo bleu kanalia Ata ma futa tomati Eza la kite Kasi ango ele kaki Moussou ni nelemi Banda yo kenda peti Esi la ma Na koma koli a kata Kona se pelisa monokoye Le lelo na kanisio mingi mama. Bonjour anniversaire na nga e komine. M'invite ba polia ba komera masama. Yo putu artisana koyo zalite. E pa yo zali sokyo putani na okasyo e. Inde langa marta de ve ata pololo.
Je voulais un certain un petit alobé la pierre chaude. Ma peine est à ton affaire, ma de la cangaïque.
Mais elle en a condition, midi maman, bonjour anniversaire, ma épouse, peine. Invité ba folia ba comer a masanga. Yo putu artisana boyo salite. Ye pa yo salisa kyo putani na okasyon e. Inde langa pa fada fe ata pololo. Esengo nanga e po sala ni supplie fwa de. Normalement fetia lelo e salia yo. Sermon d'Hippocrate ba mede seba po salaka. Yanga serma yo sala toujours mama nanga. Ata baba neli mo kili soki para kamae. Yanga serma yo zala toujours mama nanga. Mama soki yo zala kika kanabo moi. Mbele na sendi yo zangi sanga susuana. Mama soki yo zala kika kanabo moi. Mbele na sendi yo zangi sanga susuana.
Consolation à Maï, John Yondo, photocopie Nayo.
Radio Capi, grand témoin.
Sébastien Louzanga Chamandevou, vous êtes actuellement secrétaire national chargé de la mobilisation politique et de la communication au sein de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi porte-parole de cette majorité. On accuse la majorité présidentielle d'être à la base de ce que la RDC vit aujourd'hui, plus particulièrement la guerre du Nord Kivu. Comment vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que c'est la majorité qui est à la base de tout ce qui nous arrive aujourd'hui?
Je vais vous répondre. Moi, je n'ai pas l'habitude de me débiner. Je réponds à toutes les questions. Je voulais que dans mon parcours, vous avez peut-être sauté une autre étape. J'étais député pendant la transition. Je suis parmi les députés, les gens de l'Assemblée nationale qui a doté le pays d'une constitution avec un président de l'Assemblée très brillant, Olivier Kamitatou, qui a su concilier les uns les autres. Et cette Assemblée nationale, la madame, elle était très...
Vous le dites parce que c'est votre frère du Bandundu?
Je parle de l'Assemblée nationale. Elle était hétéroclite, cette Assemblée nationale. 5 composantes, 3 entités venant de la guerre. Je crois que pour arriver à concilier les uns et les autres, arriver jusque à donner à la République une constitution, il fallait le faire. Mais pour vous parler de Olivier Kamitatou, non. Non seulement qu'il est de Bandundu, c'est le président de mon parti. Je suis cofondateur de l'Alliance pour le Renouveau du Congo, ARC. Et c'est à ce titre-là que je me retrouve aujourd'hui comme secrétaire national et porte-parole de la majorité présidentielle. Maintenant, vous me posez la question, mais madame, non, ne déformons pas les choses. La guerre que nous avons à l'Est, c'est un vieux plan de balkanisation de notre pays. Ça date de très longtemps, cette affaire.
Très longtemps, c'est-à-dire...
Ce n'est pas la majorité présidentielle, parce que quand vous trouvez dans les documents de l'AFDEL que nous céderons 300 kilomètres du Nord Kivu au nom du panafricanisme, au Rwanda, au Uganda... Non, aujourd'hui, madame...
Mais l'actuelle majorité, c'est la continuité de l'AFDEL.
Non, madame, ne nous trompons pas de l'ennemi. Cette affaire de balkaniser le Congo, même à ce moment-là, l'AFDL n'était pas encore arrivé. C'est un vieux projet qui existe depuis très longtemps. Puisque le Rwanda est à l'exigu, il faut donner de la terre au Rwanda, il faut trouver une solution pour le Rwanda. Mais voilà, c'est un vieux projet avant même l'AFDL. Et c'est ça le fond du problème. Et dans le parcours, il est arrivé, et c'est pour ça que Kamouzé est arrivé ici. Quand il s'est rendu compte que ce n'est pas ça, tout de suite après, il a rompu cette idée-là. Il a rompu. Et c'est ça qui nous a valu encore que nous soyons envoyés par Kinshasa et tout, que nous soyons envahis par l'armée rwandaise. C'est pas une affaire de la majorité, c'est pas une affaire de l'opposition, c'est l'affaire de tous les Congolais. Le projet de balkaniser le pays, et on y arrive par étapes. Je vous donne l'exemple.
Bon, un vieux projet venant de
vous êtes de la radio des Nations Unies. Donc la MONUSCO. Mais ce sont les experts des Nations Unies. Ce sont les experts des Nations Unies. Ce n'est pas Lusanga qui les dit. Ce n'est pas la majorité qui les dit. Qui disent que la ville de Goma a été prise et il y avait au moins 1000 militaires de l'armée rwandaise. Avec la logistique de l'armée ougandaise. Mais qu'est-ce que la majorité vient faire là-dedans? Et je suis vraiment désolé, je suis écœuré d'entendre de la bouche des fils de ce pays, de temps en temps dire, mais oui, bon, la guerre là, nous au Congo, nous n'avons qu'un seul problème, c'est le problème de légitimité. Mais bon sang, madame, bon sang, aujourd'hui nous avons le problème de recouvrer l'intégrité de notre territoire. Et cela doit préoccuper tout Congolais digne de son nom.
Monsieur Lusanga, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir, c'est vrai qu'on cite le Rwanda et l'Ouganda comme étant des pays qui soutiennent les M23, mais comment expliquer que le gouvernement va dans ces pays qu'on cite comme étant des agresseurs pour négocier avec cette rébellion?
Non, mais à ce stade, madame, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas allé encore pour négocier.
Bon,
ce n'est pas pour négocier. Selon l'esprit et la lettre de la réunion extraordinaire de Kampala, où il y avait tous les chefs d'État de Grand Lac, il faut que le président de la République, que Kinshasa, écoute, entende les revendications de cette rébellion.
Pourquoi ça doit se faire à Kampala?
Bon, bah écoutez, que ce soit à Kampala ou ailleurs, parce que ça avait commencé là-bas, et jusque-là, le président Museveni, c'est le président en exercice pour régler tout ce problème-là. Croyez-moi que les jours à venir,
nous pourrons
trouver un autre lieu pour continuer à nous parler. Et nous parler, je voudrais dire la dernière chose, que jusque-là, la délégation qui est partie à Kampala, c'est pour écouter les revendications de M23. Revenir ici, nous allons évaluer toutes les institutions réunies, l'institution président de la République, l'institution gouvernement, l'institution parlement, nous allons nous réunir pour examiner ensemble si ces revendications sont fondées. C'est à ce moment-là, on trouvera la nécessité ou non d'avoir un dialogue. Déjà, si vous entendez toute notre population, les gens ne sont pas d'accord avec le dialogue, ça serait
légitimer
chaque fois qu'il y a une rébellion, il faut qu'ils viennent pour prendre des titres ici, qu'ils deviennent des généraux, qu'ils viennent... Non.
Alors, monsieur Sébastien Lusanga Chamandé-vous, nous sommes presque à la fin de notre entretien, mais avant de vous donner le dernier mot, je vais juste rappeler que vous avez été aussi secrétaire exécutif de l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives, et aussi coordonnateur national du CENAREC, secrétariat national pour le renforcement des capacités. Alors, quel message vous lancez à tous ces Congolais qui nous suivent partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radioocapi.net? Doivent-ils espérer au retour de la paix dans le pays un de ces jours?
Il faut espérer au retour de la paix. Je vais vous surprendre, madame, en vous disant, c'est mon point de vue personnel. Si le seul prix à payer pour retrouver une paix durable
Ou je veux dire, parmi les prix à payer. Je dis parmi les prix à payer pour retrouver l'intégrité de notre territoire. Et qu'il y a la guerre. Je pense qu'il est temps que nous fassions la guerre. Il y a un proverbe latin qui dit « Si vis pacem, para bellum ». Et qu'aujourd'hui, si toutes les tentatives que nous sommes en train de faire, et le chef de l'État avait donné déjà des pistes, parmi les pistes de solutions, il y a aussi la piste de la guerre. Il y avait la diplomatie, il y avait la politique que nous sommes en train de continuer. Mais si ça échoue, mais madame, je dis que nous devons faire la guerre. Pas n'importe comment. Je vous dis, vous allez me dire, oui.
Non.
Aujourd'hui, je crois que les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on envoie au front de vrais Congolais. Mais il faut les mettre dans des conditions idéales. Il faut les mettre dans des conditions maximales pour qu'ils fassent la guerre. C'est-à-dire quoi? C'est acheter des armes. Et là encore, nous sommes heureux d'avoir découvert finalement que le gouvernement du Congo n'est pas sous embargo. Donc nous pouvons acheter des armes appropriées, des munitions appropriées et motiver nos militaires. Les mettre dans des conditions normales. Je vous dis, on ne fera pas. Je donnerai un mois pour bouter dehors cette rébellion.
Merci, monsieur Sébastien Louzanga Chamandebou. Je rappelle que vous avez été ministre plusieurs fois pendant la Deuxième République. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire national, porte-parole de la majorité présidentielle, chargé de la mobilisation politique et de la communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Grand Témoin.
Madame, merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi aujourd'hui d'être sur Radio Okapi, une radio qui donne des informations, des bonnes informations, des informations exactes. Et je crois que tout notre peuple vous en sait gré, parce que c'est la radio finalement qui informe le mieux. Mais bien sûr, parce que vous avez des moyens sophistiqués, parce que vous êtes très suivi. Je suis content vraiment aujourd'hui d'avoir répondu à votre invitation et je salue tous les compatriotes en leur disant courage, demain nous allons retrouver le pays entier. Et il n'y aura plus de rébellion, nous allons mater la rébellion.
Merci.
La rébellion, il faut la mater parce que c'est une rébellion.
Merci monsieur Louzanga, merci encore une fois. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique, au micro, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.